tempête, on est là. Jour de tempête. Bon Dieu, que ça a l'air à brasser dehors. Comment ça se passe sur la route, les amis? 88-971-1021. La visibilité, est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est nulle? C'est que c'est fausse.
Je te confirme pour avoir seulement traversé la rue ce matin, mais en auto, que la visibilité est presque nulle. Puis je vais prendre la peine quand même de faire un petit tour. Là, en ce moment, c'est couvert à grandeur, vous comprendrez. Là, je vous apprends rien, ouais. Il y a déjà des ralentissements.
Attends un petit peu, mets une voix plus joyeuse, OK?
Une voix plus joyeuse?
Ouais, une voix plus, un petit peu plus joyeuse.
Donc ce matin, les copains, c'est vraiment le fun, parce qu'à l'extérieur... On voit pas grand-chose, mais la vie est belle quand même, hein? Si vous approchez le pont au moment où on se parle, Henri IV, direction sud, c'est vraiment difficile d'accéder au pont, mais c'est pas grave. Parce qu'en fin de semaine, on va pouvoir faire du ski doux. Faut s'attacher à ce qu'il y a de beau dans la vie, les chums, hein? Il y a des problèmes également, évidemment, sur la 73, direction nord, quand on veut aller chercher le pont aussi. Mais c'est pas grave, c'est un détail. Si vous êtes capable de quitter le travail cet après-midi, ben peut-être que la journée s'annoncera un peu plus belle. Il y a des problèmes aussi sur la capitale. Direction est, mais problème, c'est un grand mot, hein? Direction est à la hauteur de Robert Bourassa. Quelques problèmes sur Charest aussi, direction ouest, hauteur Duplessis. Évidemment, vous avez quoi que ce soit de plus positif à nous annoncer, 88-971-102, texto.
On serait-tu bien?
Je me suis tellement pas cru, là.
Hein?
Et Audrey! Là là. Et...
Cerveza, por favor!
J'ai l'impression que c'est loin derrière moi.
Si, 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 si!
Cuba libre!
Gracias, gracias.
Hein? Toi, tu viens de où? Viens-tu du, du Canada?
Je viens du Canada.
Canada? Ah, oh, ouais, wow. Oui, oui.
Oh, okay. Toi, t'es dans quel coin?
Mexico.
Mexico! Oh, oui. Tu comprends une bière ensemble cette semaine? On pourrait aller faire du catamaran?
Oui, exact. Oui. T'as-tu des activités de planifier?
J'ai une excursion. Je vais aller faire du cheval. Fait que si tu veux te joindre, hein, il n'y a pas de problème.
Du cheval sur la plage, j'imagine.
Oui, sur la plage, dans l'eau, voyons.
La température est tellement.
Fait
chaud. À près, tellement. Oh. Vas-tu mettre un peu de crème aujourd'hui ou tu vas te laisser bronzer?
Je pense que je vais faire attention sur le cheval là, de mettre de la crème. As-tu vu le lever de soleil ce matin? C'était magnifique. Et le restaurant que tu as réservé ce soir, c'est lequel? Italien ou mexicain?
Oui, au Mexique, j'ai réservé de l'italien. Oui.
Je comprends, c'est tellement bon.
Hier, j'étais au français. Ah.
J'ai du foie gras. Hein?
J'ai laissé 5 piastres US de type.
Ah, il devait être content.
Il était content.
Hey, demain, tu choisis plage ou piscine?
Hey, c'est une bonne question. Je regardais les filles dans la piscine à piste, là.
Oui.
Puis je vais peut-être choisir la piscine avec le bar, là.
Ma préférée, la piscine à piste, ça a comme un petit goût supplémentaire, je trouve.
J'y goûte pas, moi. Fait que ça va être ça aujourd'hui, les amis. Ça va être ça aujourd'hui. On se met la tête ailleurs, mais c'est une grosse tempête de neige pour tous ceux qui nous écoutent de la maison. J'ai une petite pensée pour vous autres. Vous êtes forts de travailler de la maison, honnêtement, parce que si on m'avait permis de rester aujourd'hui à la maison,
doudou,
probablement que j'aurais été effoiré sur le divan, faire 3-4 sommes, tu sais, dans la journée. Là.
J'aurais même pas fait écrire à mon boss que je travaillais. Là. J'aurais dit, là, écoute, je vais travailler un peu en avant-midi, mais en après-midi, c'est Netflix. Là.
Ouais.
Dimanche, il annonce une genre de température de même, ça va être exceptionnel.
Dimanche?
Parce que c'est dimanche.
Ouais, j'ai des tournois de hockey encore.
En
boss. Ben, j'aime ça. Une fois que je suis rendu sur place, les voir évoluer, j'aime ça. Mais arriver une heure avant la game, là, puis attendre une heure avant que la game commence, là, ça, c'est le bout où. Ben, parce qu'on n'a plus accès à la chambre. Mm. Pour les plus vieux maintenant, là, et mon gars, mon plus vieux est autour de 11 ans, on n'a plus accès à la chambre. Fait qu'avant, on pouvait participer un peu à.
Les habits, là, puis l'ambiance.
On jase, ouais, on parle, on écoute de la musique, on attache les patins. On niaise avec nos gars, on parle avec les autres parents, là, on n'a plus le droit. Fait que, on attend dans l'aréna, puis on gèle. Hey, c'est moins 11 degrés sur Québec avec le refroidissement éolien. C'est une température ressentie de moins 22 ce soir, cette nuit. Les averses de neige vont se continuer. Donc, au total, tout, ce serait quoi? Entre 30 et 40 cm qu'on reçoit depuis hier. Donc, ça va être ça pour aujourd'hui. Demain, c'est le retour du soleil. Donc, une alternance du soleil et de nuages avec 40% de probabilité d'averses. Poudrerie par endroit pour ce qui est de demain matin, nous dit-on. Maximum de moins 9 degrés. Ciel dégagé en soirée, minimum de moins 21. Samedi, ensoleillé, maximum de moins 8. Et dimanche, de la neige, maximum de moins 10 degrés. 418-971-1021. 418-971-1021. Si vous avez quoi que ce soit à nous dire, ben, c'est le numéro de téléphone pour nous texter. Pensée spéciale pour tous ceux qui font du déneigement aujourd'hui, oh. Ceux qui déneigent à pelle, ceux qui déneigent à souffleuse, ceux qui déneigent sur la route, que ce soit pour le privé ou encore pour le commercial ou encore pour Transport à Québec. J'ai une pensée pour vous autres. Merci de faire la job que vous faites. C'est de longues heures.
Et soyez patients sur les routes quand vous allez être pogné derrière une gratte. Parce que c'est grâce à elle que vous pouvez probablement rouler sur la route. On a tendance à être impatient, à vouloir dépasser. C'est ça souvent qui cause des accidents, des sorties de route. L'air de jouer à la mer, là, mais Colin, on en voit tous les jours. Là. Probablement que cet après-midi, on va en caler des sorties de route encore parce qu'on on dirait que chaque fois qu'il y a une tempête, on oublie comment conduire.
Puis malgré que ce matin, moi, j'étais content, il n'y avait personne sur la route. Ça m'a pris. Normalement, ça me prend tout le temps à peu près une demi-heure me rendre ici. Mais ce matin, ça m'a pris à peu près une dizaine de minutes. Fait que j'étais très, très, très heureux. De ça.
Tu as fait attention, hein?
J'ai fait très attention. Non, mais tu me parles, c'est toi qui me parlais de mon Jeep, hier?
Oui.
Tu sais, le Jeep, là, c'est vraiment le fun quand tu roules pas vite. Mais quand tu roules vite avec un Jeep, là, surtout le mien, c'est hyper dangereux. Tu as plus de chances de te planter que d'autres choses.
Ouais.
La bonne nouvelle, c'est que tu peux te déprendre. Là, mais
oui, oui. Pour ça, c'est une bonne affaire. Là. Il y a Louis-Gabriel qui nous dit au 88-971-1021 en pensant à la neige, on n'a pas d'ouragan, on n'a pas d'alligator. On n'a pas Trump, on n'a pas d'ouragan, on n'a pas d'alligator, on n'a pas Trump.
Il se répète ça depuis un matin.
Essayez de rester positif un peu.
C'est jeudi 13 février, une journée avant que ça nous coûte cher, les gars. On lâche pas. Jeudi 13 février, qu'est-ce qui se passe? C'est la journée mondiale de la radio. C'est célébré, ça a été entériné, c'est en 2011 par l'UNESCO. Puis nous autres, on fait partie de ça, du merveilleux monde de la radio. Puis parce que vous êtes des auditeurs, parce que vous aimez la radio, ben, vous êtes un peu dans cette fête-là aussi. Donc, je souhaite à tout le monde une bonne journée mondiale de la radio. Qu'est-ce que ça représente pour toi, la radio? Pourquoi tu t'es ramassé à la radio? T'as-tu toujours rêvé de faire de la radio? Je vais te poser une question qui tue quand t'arrives au cégep. C'est, OK, là, t'es en concentration radio. Là. Qu'est-ce que t'écoutais à la radio avant de te pointer?
Mon Dieu.
Et je suis persuadé que je connais la réponse.
C'est quoi, selon toi?
T'écoutais RJ.
J'écoutais rien. J'écoutais rien. Pour vrai, moi, la radio est vraiment tombée, est tombée sur ma tête, là, à m'assommer, là. J'ai fait de la radio étudiante plus jeune. J'ai toujours eu un intérêt pour la communication, le fait d'être avec des gens, de partager quelque chose avec les gens. Mais c'est comme si pour moi, c'était pas une option. Quand j'étais jeune, puis je regardais la télé, puis que j'entendais la radio que mes parents écoutaient, puis je me disais toujours, ça, c'est un autre monde auquel j'aurais jamais accès.
OK.
Puis c'est quelque chose vraiment à quoi j'ai jamais pensé. Au point où, quand je me suis ramassée à Jonquière pour aller étudier, j'avais déjà un an de cégep derrière la cravate, puis je me suis inscrite en production, c'est-à-dire derrière les caméras pour être sur les plateaux de télévision, caméraman, tous ces postes-là, là, de régie. Fait que j'ai fait un an en prod. Puis c'est quand je me suis ramassée à remplacer pour la radio de Jonquière, CKJ, avec des amis pour dépanner une soirée en niaisant, que Crimbine... J'ai un peu pogné la piqûre, puis j'ai vraiment eu du fun. Fait que l'année suivante, ben, j'ai décidé de changer en radio. Mais encore là, on dirait que je croyais pas vraiment que j'allais me ramasser à faire ça dans la vie. Tu sais, je me disais, je sais pas quoi faire. En ce moment, j'ai du fun, j'étais avec des gens que j'aime. J'étais comme un peu inconsciente. Fait que j'écoutais pas la radio. Je connaissais certaines stations, tu sais, je connaissais Weekend, évidemment. Ici, Boulevard, j'étais moins à l'affût, c'était plus talk avec André-Arthur et tout, là, quand moi, mettons, j'ai transféré en radio.
Mais t'étais un peu plus vieille à ce moment-là.
Oui, oui, j'étais plus vieille. Mais
t'étais
plus
pas
jeune.
La jeune Audrey.
Non, puis il faut dire aussi que de ma génération, moi, plus jeune, je copiais la musique que j'aimais sur des CD, là, avec LimeWire et compagnie sur l'ordinateur au sous-sol. Puis je me faisais des compilations, puis j'avais mon petit MP3, puis après mon petit iPod Nano. Puis c'est comme ça que je consommais la musique. Puis je trouvais ça plate, les gens qui arrêtaient pas de parler à radio. Ça m'emmerdait.
Okay.
Quand mes parents écoutaient la radio, puis tout ce que je faisais, c'était entendre jaser, puis blablabla, là, et mon Dieu que ça m'emmerdait. Fait que j'avais tout sauf le parcours d'une fille qui allait terminer par faire du talk dans la vie. Puis finalement, ben écoute, quand je me suis rendue au bout de ça avec les études, parce que avant de me diriger à Jonquière, j'ai voulu aller faire de la musique. J'étais censée rentrer à l'école à Sainte-Thérèse au cégep en musique. J'ai voulu, mon Dieu, Yann, gardienne de prison. J'ai voulu être ambulancière. sorcière. J'ai passé vraiment par beaucoup de corps de métier avant de penser à peut-être faire de la radio. Puis là, ben, je me suis ramassée à Jonquière, j'ai fait le transfert en communication. Le déclic s'est fait. Oui, le déclic s'est fait, mais encore là, tu vois, j'étais tellement tannée d'être à l'école qu'à la fin, mettons, de mon DEC, là, je m'en allais en Suisse faire mon stage parce que je voulais rester là-bas puis je voulais voyager. J'avais comme besoin d'un break, on dirait. Puis là, ben, j'ai rencontré un certain petit chum qui fait que ben, je ne suis pas partie en Suisse. Et j'ai choisi de venir à Québec faire mon stage puis depuis 6 ans cette année.
Regarde dehors la chance que tu as
d'être pourrais être ici, en Suisse.
À Québec, alors que tu pourrais être en Suisse. Non, moi, la radio, pour moi, a été, dès mon plus jeune âge, immiscée dans ma vie. La radio était toujours ouverte à la maison. Okay. À plusieurs endroits, là, tant chez ma mère qu'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi il y avait cette grosse culture-là de la radio à Québec. Je ne sais pas si c'était comme ça à Montréal. Je sais pas si c'était comme ça ailleurs au Canada, mais du moins, moi, dans ma famille, puis dans mon entourage, la radio était tout le temps ouverte à la maison. C'était comme un bruit de fond.
Ouais.
Fait que j'ai tout le temps été habitué à ça. Tu sais, des fois, j'entends des vieilles chansons francophones. Là,
ça te ramène.
Puis je connais les tunes par cœur. Tu sais, Vive dans la nuit, là, c'est de même que je veux faire ça. Vive dans la nuit.
Parce que c'est ça qui joue en arrière-plan.
Ouais, c'est ça. Mais je me souviens de ça. Je me souviens des gros animateurs du temps. Bon, gros en termes de popularité. Là, André Arthur, qui, à mon très jeune âge, a fait partie de ma vie, que ce soit à la maison ou encore dans l'autobus. L'autobus scolaire, tout le monde écoutait André Arthur à ce moment-là, tellement que je me suis dit qu'à 6-7 ans, il fallait que j'y parle des gros dossiers de mon école, puis je l'ai appelé. Je devais avoir 7 ans, pas 6, là, parce que je trouve que dans ma tête, c'est un peu trop jeune, mais je devais avoir 7 ans, donc j'étais en première année, à peu près première année. Puis André Arthur demandait, tu sais, c'est quoi les choses particulières qui se passent à votre école, à l'école de votre enfant? Fait que là, moi, j'ai appelé, puis la recherchiste à ce moment-là, c'était Marie-Chou Labadie. Puis elle dit, ah ben bouge pas, je vais te passer en onde, parce que moi, il y avait quelque chose de particulier qu'il y avait à mon école. Elle terminait pas à une heure juste, tu sais. Elle terminait pas à 3h15, elle terminait à 3h21.
Ah.
Puis moi, je trouvais ça weird.
Fait que tu voulais le partager.
Quand tu termines, normalement, quand tu termines quelque chose, c'est 15h, 15h30, pas 15h10. Là, c'était 15h21, puis M. Arthur, j'entends le déclic, puis là, M. Arthur, on a Yannick qui veut nous parler. Fait que c'est ça. Moi, c'est un gros dossier. Fait que j'ai dit, oui, moi, il y a quelque chose de particulier à mon école primaire. Elle termine à 15h21. C'est assez particulier comme heure. Et là, il était parti, puis il m'avait oublié sa ligne.
Oh!
Ouais. Puis à un moment donné, ça a comme flushé.
T'as juste eu le temps de dire ça!
Ouais. Fait que j'avais 7 ans. On s'en va plus loin en 2006, où là, j'ai la chance de rencontrer le gros moustachu, parce que le gros moustachu avait une blonde qui m'enseignait à l'école.
Wow.
Puis elle l'avait invité parce qu'elle savait que pour nous autres, André Arthur, ça représentait quelque chose de gros. Puis on avait André Arthur en entrevue, mais on avait la chance de lui jaser juste avant l'entrevue. Puis là, il dit, bon, vous autres, pourquoi vous aimez la radio? Moi, j'expliquais. Moi, j'étais très jeune. Je vous écoutais, puis en plus, je vous ai appelé quand j'étais jeune enfant. Il dit, Yannick.
Oh!
Il se souvenait, il avait tellement de mémoire phénoménale. Puis il m'a dit, Yannick, 3h21. Il se souvenait de ça.
C'est capoté.
Ouais, c'est un des plus beaux souvenirs que j'avais avec André. Puis après ça, j'ai eu la chance de l'avoir comme collègue puis de l'avoir en entrevue. C'est une entrevue qui est encore disponible sur YouTube, une entrevue de 3 heures.
Mais voyons
où
donc.
On parle de sa famille, tu sais, du fait que lui... Il n'est pas d'ici, là. C'est un enfant d'immigrant.
Mm.
C'est son grand-père qui est venu s'établir ici. Le vrai nom d'André Arthur, c'est Akassan.
Au palais.
De mémoire, c'est ça.
J'avais déjà entendu Azakian. Ça, je pense.
Azakian, je pense. Puis ils ont changé leur nom parce que il y avait la guerre à l'époque et tout ça. Là, c'était un peu compliqué à Montréal. Puis, c'est même ça, Azakian, ça se peut-tu?
Bien, écoute, c'est ça que je suis en train de chercher. Là. Continue ton histoire, je vais te le confirmer.
Mais bref, il est arrivé, eux autres, à New York. Puis, ils ont dit, vous avez le choix entre la Californie puis Montréal.
Il venait d'Arménie.
Arménie, c'est un Arménien.
Izakian,
voilà.
Izakian.
Puis, c'est un Arménien, André Arthur. Et
il est associé aux Juifs.
On avait tout Ben c'est ça. C'est pour ça qu'ils ont changé leur nom pour Arthur. Ouais,
en mémoire de son grand-père, lui, Arthur.
Exact. Son grand-père, lui, qui a travaillé longtemps dans l'automobile aux États-Unis. C'était à Détroit, si je ne me trompe pas. Fait que j'ai fait 3 heures avec lui. Ça fait partie de mes plus beaux souvenirs de radio. Mais sinon, à un moment donné, j'avais plus vieux. Ben, tu comprends que je voyais la radio de soir.
Mais tu savais que tu voulais faire ça. Ça t'a donné le déclic de dire un jour, moi, je vais être là.
À 7 ans, aïe, aïe. J'avais quelques plans, là, mais mon plan numéro 1, c'était de faire de la radio. Mon plan numéro 2, c'était de devenir pilote d'avion. J'avais astronaute aussi, mais je trouvais que ça demandait des super de bonnes notes, ce qui fait en sorte que j'aurais dû prendre très souvent les copier sur mon collègue, du moins,
ouais,
les réponses
difficile.
De mon collègue. Fait que c'est ça. Puis à un moment donné, c'est ça. J'écoutais la radio de soir beaucoup parce que je travaillais de soir et de nuit, ce qui fait en sorte que quand j'arrivais chez nous, il y avait Fabi qui parlait.
Mm-hmm.
À radio. Il y en avait d'autres aussi. Il y avait un Jean Drolette. Certains drôlettes qui parlaient à la radio à Montréal. Et je me suis dit, crime, la radio fait tellement tout le temps partie de ma vie. J'ai tellement toujours voulu travailler à la radio. Roger Drolette, effectivement. Ça, là, c'est pas mon bague, monsieur. Votre bague à vous, monsieur, c'est d'être gentil avec votre femme.
Wow.
Mais vous êtes trop gentil. Il était incroyable, M. Drolet. Puis, c'est ça, il y avait des divers personnages aussi de la radio à Québec qui m'inspiraient. Mais la radio de nuit m'intéressait beaucoup. J'avais vu des films, un film avec Christian Slater, le gars, c'était un animateur de radio, mais radio pas légale. Okay. Il faisait ça en direct de chez eux avec une antenne, puis il avait foutu le bordel dans la ville. C'était un rebelle. Ça, c'était des années 80.
Pump Up the Volume, ça se peut-tu?
Pump Up the Volume, ouais. Ça, j'avais...
90.
J'avais trippé sur ce film-là. J'avais trippé sur le film d'Howard Stern. Fait que tout ça a fait en sorte que je me suis ramassé à radio...
Puis t'as étudié où exactement?
Au Collège Radio-Télévision de Québec.
Arrête, OK!
Ouais. Moi, c'était... je sais pas comment c'est arrivé dans ma vie exactement, mais je sais que j'ai failli crever au Collège Radio-Télévision de Québec parce que j'avais tellement besoin de travailler, Audrey. J'avais pas accès aux prêts et bourses, ce qui faisait en sorte que fallait que je travaille. Puis moi, mais c'était la restauration puis les bars. Mmh. Fait que j'arrivais chez nous, il était 4h30 du matin. Puis il me restait à peu près 1h30, 2h à dormir.
Avant de terminer
l'école. Avant d'être obligé de monter les marches parce que je restais au centre-ville de Québec. Après ça, je montais les marches. J'avais toute la misère du monde à monter les marches pour arriver au collège. Puis après ça, faire ma journée complète au collège pour après ça, retourner chez nous, dormir 2h30 puis repartir à la job.
C'est capoté.
Puis je travaillais 7 jours sur 7, ce qui fait en sorte que j'ai passé de... J'étais un gars de 185-190 livres à peu près. Ben quand j'ai fini le collège, là, j'étais à 130.
Aïe.
C'était, t'as vu les photos que j'ai mises sur mon Facebook? Oui. Là? C'était épouvantable.
Oui, mais je zéro santé.
Je chaignais du nez à tous les matins.
Ben, je sais pas. L'hygiène de vie n'était pas très présente.
Ouais.
Hein?
Non, je chaignais du nez à tous les matins. Puis je me souviens de Christian qui était au collège, qui était le directeur du collège, qui m'avait dit... Parce que le vendredi, moi, je me pointais là, même s'il n'y avait pas de cours, parce qu'il fallait que je prenne
le retard
que j'avais pris dans la semaine en raison du fait que j'étais pas tout à fait... J'étais présent de corps, mais pas nécessairement d'esprit. Puis le vendredi, il m'avait dit, tu sais, si je connaissais pas ta vie, là, je te traiterais de gros lâche.
Mais parce qu'il connaissait les conditions dans lesquelles tu étais.
Mais parce qu'il connaissait les conditions dans lesquelles j'étais, il m'a rendu une fière chandelle en me laissant passer quand même mes cours. C'était épouvantable.
Là, t'as terminé, mettons, au collège.
Oui.
Puis après ça, quoi, tu t'es-tu ramassé directement à Radio X? Comment ça s'est passé?
Pas en tout. Ce que j'ai fait, c'est... moi, j'étais ouvert à tout. Là. Je voulais aller travailler même en Ontario. J'étais parti avec un de mes chums, Adam. Et on était parti dans ma voiture. Puis on avait monté jusque dans le nord de l'Ontario, à Kapuskasing, pour cogner à la porte de la station pour dire aux gens de Kapuskasing qu'on voulait aller travailler là. Puis quand on est arrivé, la station de radio était fermée.
Oh.
C'était un samedi. Il n'y avait pas un show. Fait qu'on on s'est arrangé. On est allé au restaurant. On a dit, connaissez-vous les gens qui travaillent à la station? Oui, oui, c'est un tel. Parfait. Vous, son numéro de téléphone? Non, mais je connais quelqu'un qui a son numéro de téléphone. On a réussi à trouver le numéro de téléphone du directeur général de la station à Kapuskasing. Il est venu nous rejoindre au restaurant. Puis on a eu un meeting là, puis on est embauché.
Fait que t'as commencé là-bas?
Fait que là, je reviens à Québec. Je dis à mes directeurs de cours, puis mon directeur de cours, puis mon directeur d'école, ben je me suis trouvé une job à Kapuskasing. Pas fini mon cursus, mais là, il faut que je travaille. Fait que je me pousse à Kapuskasing. Puis il y a une professeure au collège qui s'appelait Marianne Drouin, qui est une ancienne de choix, d'ailleurs, qui a dit « Yann, je pense qu'il se cherche du monde à Saint-Georges. »
Ah, là, peut-être moi, plus accessible un peu.
Il y avait quelque chose qui me retenait à Québec, qui m'achalait un peu. Là. C'était la mère de la future mère de mes enfants.
Ah.
Fait que j'ai dit tant qu'elle allait à Kapuskasing puis me ramasser avec... avec rien.
Ouais, c'est ça. Là, au moins, tu avais peut-être une possibilité de futur. Là.
Bon, Saint-Georges, j'étais quoi, une heure et demie. Fait que après, je suis devenu morning man à Saint-Georges quand je suis arrivé là. J'ai commencé fin de semaine.
À ce qui est haut en ce moment?
99, mix 99.7. Okay. J'ai commencé là les fins de semaine. Puis après ça, le morning man a sacré son camp. Fait qu'ils ont dit, on va prendre le gars de fin de semaine qu'on sait pas trop qu'est-ce qu'il fait ici. Puis on va le mettre morning man. Puis c'est là que ça a commencé. Fait que j'ai fini le collège, j'ai fini la job là-bas. Puis après ça, vers 2011, je suis arrivé à la Radio de Québec pour ensuite me joindre à Boulevard dans les deux dernières années. Ça a été une maudite
toute
belle épopée.
Ride, hein?
Puis aujourd'hui, c'est particulier comment la vie est faite. T'sais, c'est la journée mondiale de la radio. Puis on parle tous de nos souvenirs. Puis on diffuse nos souvenirs sur nos réseaux sociaux. Puis il y a une belle nouvelle qui vient d'être mise en place par Leclerc Communication. Vous le savez, on a une station sœur qui est Weekend Radio à Québec. Puis à Montréal, c'est le 99.5 où Cube Radio est très, très, très présente sur cette antenne-là. Puis Leclerc Communication voulait ajouter peut-être une touche plus locale, ce qui fait en sorte qu'ils sont allés embaucher une des chroniqueuses que j'adore, qui est dans le show de Rage Against le matin, c'est Jacinthe-Ève Harel.
Oui.
Puis après ça, ils ont dit, bien, Jacinthe-Ève, on la veut, on la désire, elle s'en vient avec nous autres, puis on aimerait ça que tu fasses un Marceau le soir à Montréal.
C'est très hot.
Fait que j'ai dit, laissez-moi y penser, donnez-moi à peu près comme 2 secondes. C'est beau, c'est
oui,
beau.
Ouais, je le fais.
Je vais être là.
C'était-tu dans tes rêves de vie, un moment donné, de faire de la radio à Montréal ou toi, tu visais Québec de toute manière? Parce que souvent, quand on parle de médias, moi, je me souviens, la moitié de ma cohorte voulait aller à Montréal. Montréal, c'est comme si c'était la ville. C'est là que t'es hot, sinon t'as échoué, tu sais.
Ouais. Moi, la radio, le plus gros marché de radio est à Québec.
Je suis même place que toi.
Je voulais faire de la radio à Québec. J'ai eu quelques offres dans les années 2015-2016 pour aller faire un tour à Montréal. Ça m'a jamais intéressé parce que la formule qui m'était proposée, c'était une formule de radio montréalaise.
Mm-hmm.
Je n'aime pas la radio formatée.
Non, il y a moins de proximité avec l'auditoire.
Mes boss aimeraient que je sois un peu plus formaté, là. Mais moi, j'aime pas la radio formatée. C'est poche! On coupe. C'est bon, on garde. Ouais, mais Yann, faudrait qu'à midi, pile, on arrive. Ah, OK, OK. Mais je suis capable de faire certaines...
T'es un artiste.
Certaines concessions, mais j'aime pas la radio formatée. Puis là, on m'offre la chance de faire un podcast de 60 minutes avec des gens qui proviennent de tous les milieux. Ça peut être des artistes, ça peut être des politiciens, ça peut être toi et ton problème. Ton problème?
Mon problème.
Où on en parle pendant 60 minutes. Puis
J'ai beaucoup de gros problèmes. On ferait probablement une coupe d'heure. Là.
Exact. Ça, on va parler avec la Fédération canadienne des contribuables. Tu sais, ça, à Montréal, on les entend pas assez.
Ouais.
Tu sais, qu'est-ce qu'on va dire, les contribuables, par rapport à ce que François Legault nous met en place, par rapport à ce que Justin Trudeau nous a mis en place. Fait qu'on va jaser pendant 60 minutes. Ça va être un gros podcast non formaté.
Mm-hmm.
Puis ça va donner ce que ça va donner, mais c'est une petite fierté, ce petit show-là que j'ai le soir sur les ondes de boulevard, que j'avais pendant quasiment une dizaine d'années ailleurs. C'est une formule qui est le fun, parce que tu t'assois dans ta voiture ou tu es à la maison, tu es au bureau, puis... C'est 60 minutes où on fait juste discuter sans prétention. On niaise, on rit, on apprend des affaires. En fait, j'apprends beaucoup d'affaires dans ce show-là. Je peux me permettre de vous le dire, ça ne me dérange pas. Quand j'ai des gens comme Maître Marc Bellemare qui vient avec moi puis qui me parle de la politique...
Est-ce que tu le gardes tous les lundis?
Je le garde tous les lundis. Puis il y a plein d'autres collaborateurs que vous entendez sur les zones de radio à Québec qui
Donc
vont
là,
venir avec moi à Montréal.
Juste pour les gens que ça peut peut-être intéresser, tu vas être de 18h à 19h ici à Québec.
10h à 14h ici?
Oui.
Après ça, 18h à 19h ici.
Puis
après ça,
19 à 20h.
Je pogne mon chum Elon Musk. Là.
Oui, oui.
Il m'a donné un truc. Là, j'embarque là-dedans. C'est comme une capsule temporaire.
Je serai à Montréal.
M'en vaut 99,5.
19 à 20h.
Puis là, c'est organisé pour que Benoît, qui est le directeur général là-bas, que la porte soit déjà ouverte pour pas que je passe
ça,
au travers.
C'est accident, là, c'est ça. Comme tu puisses te rendre directement en studio.
Ils veulent
là.
Pas tout scraper.
Mm-hmm.
Puis après
comprend.
Ça, ben, on part le show à Montréal à 19h. Fait que c'est un super de beau défi pour la gang de Leclerc Communication. Merci beaucoup pour la confiance. C'est un beau petit nanan qu'on
a. Je trouve ça extraordinaire. Puis je te lève mon chapeau. Je trouve ça hot qu'on ait la chance, justement, de faire ce pont-là Québec-Montréal.
Je vous pose une question. Il y a combien de shows de Québec qui sont entendus à Montréal.
Il y a le tien puis le mien maintenant.
Exact.
C'est tout.
Hey! La fin de semaine.
Oui, la fin de semaine. Tu seras en semaine.
Exact.
C'est vraiment capoté. Puis je te parlais de Jacinthe Varelle. Je veux lever mon chapeau si jamais ça vous parle. Jacinthe est une femme excessivement pertinente. Elle a une grande connaissance des enjeux politiques. Et elle, son émission, c'est à partir de 18h. Puis ça va être une émission d'information de 60 minutes en direct. Fait que ça va être super intéressant de l'entendre aussi du lundi au vendredi. On est très, très fiers dans les bureaux de Québec de savoir qu'il y a ça qui s'installe. Là. C'est à partir de la semaine prochaine.
Lundi!
Lundi, ça commence.
Lundi, ça va être le premier show de Jacinthe-Ève. J'ai pas eu la chance d'y jaser. Je vais faire des shows avec elle quand Pascal va s'en aller en vacances, de mémoire.
Je sais que tu vas triper.
En direct du Salon de l'Auto de Québec. Fait que je sais que Jacinthe-Ève est une grande passionnée du merveilleux monde de l'automobile.
Oui.
Fait qu'on va parler des premiers chevilles là, qui ont été mis en place. Là,
ça va être le fun de vous décennies. Écouter.
ça va être le fun. All right, gros show aujourd'hui puisqu'on reçoit un gars que j'ai reçu quelques fois à l'émission. Son nom, c'est Michel Corneau. Mm-hmm. Son métier, je pense que tous les gars ont rêvé de faire ce métier-là.
Détective privé.
J'allais dire porn. Non. Là, t'as vendu le punch. Mais oui, un détective privé, un vrai. Michel est sur la Grande Allée à Québec depuis... Hey, je veux pas le vieillir, mais je pense que ça fait presque plus de 30 ans
qu'il ça est sur... Ça fait très longtemps.
...qu'il est sur la Grande Allée. Il en a vu des affaires. Il va vous parler un peu de la job de détective privé. Qu'est-ce que ça représente? C'est-tu vrai qu'il court toujours après méchant? Moi, je pense que je l'ai déjà vu courir. C'est pas vrai qu'il court après un méchant, là. Mais il y suit, par exemple.
Mais je suis convaincue. J'ai mille une question, sauf qu'aujourd'hui, on se concentre beaucoup au travers. Puis 88-971-102 en passant, si vous en avez. Mais on va se concentrer sur l'infidélité. On est dans le contexte de la Saint-Valentin cette semaine. Puis on s'est dit, pourquoi pas foutre la merde? Fait que l'infidélité, il y a des gens à une époque, puis encore aujourd'hui, qui faisaient affaire avec des détectives privés pour qu'il y ait de la filature pour suivre leur conjoint, conjointe, puis essayer de trouver ce qui se passe finalement par rapport à leur couple. Fait qu'il y a pas mal de questions à poser à ce niveau-là, puis très excité de voir ce que Michel Corneau a à nous dire.
Qu'est-ce que tu vas poser comme première question? Y a-tu tant de ça, tant d'hommes mariés qui sont infidèles?
Bien, je me demande si... À la base, moi, je me demande le pourcentage de femmes et d'hommes qui font appel à ces services-là. J'ai...
Breaking news.
C'est plus de femmes que d'hommes.
Je pense que c'est plus de femmes que d'hommes.
C'est sûr.
Ouais.
C'est sûr. Je pense qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on est capable d'être notre propre FBI. Là. Moi, je suis une vraie recherchiste incroyable sur les réseaux sociaux. Mais il y a une époque où il n'y avait pas ça. Fait qu'il fallait que tu fasses affaire avec ce genre de service-là. Tu sais, je me demande aussi où sont les limites. Parce qu'il y a quand même des limites de vie privée que tu peux pas franchir. Fait que c'est quoi exactement les procédures quand on appelle pour faire suivre notre conjoint-conjointe par un détective privé? Il y a tellement d'affaires à demander. Fait que si vous voulez participer, là, Twitch.tv, BLVD, barre en dessous FM, et le 88-971-102, un texto.
Les vulgaires machins, on vous pose ça dans les oreilles avec OK sur Boulevard. Je ne suis pas... Je sais pas vous autres, mais moi, la plus jeune chez nous, la préfab.
La préfab, ouais. J'aime tellement ça comme
terme. Elle m'a dit, Yann, toutes les écoles privées sont fermées, les professeurs nous ont averti, donc je n'ai pas d'école demain. J'ai dit, ouais, mais Mégane, tu vas pas à l'école privée. Elle dit, ouais, mais je suis sûr que les professeurs vont prendre les bonnes décisions. Normalement, son cadran, je l'entends, là, 5h45, elle a même pas mis son cadran à matin.
Mais là, les écoles sont fermées de toute manière. Là.
À grandeur de Québec?
Il y a quand même... Honnêtement, un matin, j'entendais les gars faire la liste. La liste est très, très longue. Là. De toute manière, vous allez avoir reçu un courriel. Si vous voulez, je vous sortirai la liste tantôt. Chose certaine, si vous voulez y avoir accès, sur la page Facebook de Boulevard, on a carrément un post avec la liste de toutes les écoles qui sont fermées au moment où on se parle. Fait que vous pouvez aller voir directement là si jamais vous vous posez la question. Mais rendu à cette heure-ci, là, le choix est déjà fait. Là. Votre enfant est à l'école ou il l'est pas.
C'est moins 11 degrés sur Québec. La neige parfois forte pour aujourd'hui avec beaucoup de poudrerie, nous dit-on. Accumulation de 20 cm, maximum de moins 9. Ce soir, cette nuit, des averses de neige qui devraient cesser vers les entours de minuit. Donc pour ce soir, entre 2 et 4 cm. Ce qui fait en sorte qu'on va avoir un genre de 30-40 cm d'amasser depuis hier. On salue les gens qui travaillent dans la merveilleuse industrie de la neige. Lâchez pas. Faites attention à votre dos.
Et nos camionneurs aussi. Hein?
Faites attention au cœur. On perd beaucoup de gars qui pèlent l'hiver.
Hey, des crises de cœur soudaines, c'est capoté ça.
Demain vendredi, c'est le retour du soleil avec 40 % de probabilité d'averse de neige et de poudrerie. Ça, ce sera en matinée, nous dit-on. Maximum de moins 9 degrés. Samedi, plein soleil, maximum de moins 8. Et dimanche, 16 février, neige, maximum de moins 10. 418-971-1021, 418-971-1021 par texto.
Il y a des choses à vous mentionner sur la route. Deux accidents qui viennent de surgir sur le réseau routier. Henri IV Nord à la hauteur, là, en fait, juste avant le boulevard Laurier. La voie de droite est bloquée. Le remorquage est en cours du côté de cet accident-là. Sinon, bien, c'est la 40 Est, donc Charest Est à la hauteur d'Henri IV. La voie de droite qui est partiellement entravée. Accident également. Service d'urgence qui viennent tout juste d'arriver. Je regarde sur la map, sinon, Capitale Est à la hauteur de Robert Bourassa, c'est encore au ralenti. L'entrée des ponts, là, dans les deux directions, c'est difficile, évidemment, que la visibilité est très, très mauvaise. Là, je vois déjà des textos qui risquent d'entrer dans les prochaines heures. Vos lumières, on voit pas grand-chose. Allumer vos lumières, quoi que ce soit, ça se passe par texto.
Après la pause, Michel Corneau, le vrai détective privé qui est dans la région de Québec depuis des décennies et des décennies. On va parler d'infidélité, on va parler de fraude à l'assurance aussi, parce que j'imagine que ça doit faire partie de son chiffre d'affaires, puis pas à peu près. Il y en a des petits fraudeurs. 10h34, on revient. Comme disait l'autre, touchez pas à ce piton-là.
Ce segment d'émission, présenté par...
10h41, vous êtes sur les ondes de Boulevard 102.1. Mon nom, c'est Yann Marceau. J'accompagne jusqu'à 14h. Première partie avec l'excellente Audrey Pinchot et deuxième partie avec l'excellente Pascale Cévé. Fait que tu vois, la même qualificatif pour les deux. Mais pas de jalousie. La Saint-Valentin s'en vient.
Il n'y aura jamais de jalousie.
Vous êtes les deux femmes avec qui je passe le plus de temps en semaine.
Autant dur.
Faut-tu que je vous achète des petits chocolats, quelque chose?
Ah, j'aimerais ça!
Ouais.
S'il te plaît!
Parce que si je commence ça, il y en a d'autres qui vont être jalouses. T'sais, vous savez comment ça fonctionne, les femmes, là,
oui, mais
ici.
Là, on le dira pas. On n'en parlera pas. Mais oui, mais là, t'ouvres la porte. Si j'ai pas de chocolat demain, je vais être déçue.
Écoute, non, mais tu seras pas tant déçue. Ou peut-être que tu vas être outrée ou peut-être dégoûtée.
Mais non.
Ou peut-être que tu seras agréablement surpris, mais demain, je vais mettre mon costume de Cupidon. Hein?
Littéralement un costume?
Parce que tout le monde qui me connaît, tous ces gens-là savent que c'est moi le vrai Cupidon.
Oui.
Et je vais lire des lettres d'amour à Pascal CV demain parmi tous les auditeurs et auditrices, parce que nous, on fait pas de différence, là. Auditeurs, auditrices, qui vont écrire un message d'amour à Pascal, que ce soit un poème humoristique, sarcastique, un poème très, très profond.
Soyez gentils.
Et crois-moi, depuis un certain temps, j'en reçois des très profonds qui me font très, très rire aussi.
Je voudrais pas être à sa place. Je dois en avoir des déplacés.
Et on a presque 300 $ en prix. Le Fromagerie Victoria, boutique au 7e ciel. On va vous gâter. Fait que si ça vous tente d'écrire un petit mot pour Pascal d'amour, ça va être directement sur mon Messenger. Vous m'écrivez ça à moi personnellement. Je fais des screenshots. Je vais faire le tri demain, puis je vais prendre 5 gars, 5 filles qui vont m'avoir écrit. Puis c'est vous autres qui allez faire face à Pascal avec votre message.
Prends-en le fun, là.
Puis à la fin, on fait gagner un gars et une fille.
J'adore.
D'un bord, il y a 50 pièces Fromagerie Victoria plus à peu près l'équivalent de 100 $ au 7e ciel. Et de l'autre bord, 50 pièces Fromagerie Victoria plus l'équivalent de 100 $ au 7e ciel. Fait que c'est des beaux cadeaux. Merci beaucoup à ces deux-là. D'ailleurs, Fromagerie Victoria qui embarque dans toutes mes niaiseries. Puis au 7e ciel aussi. Mais là, c'est ça. Demain, tu auras la chance de me voir en costume de Cupidon.
Tu vas l'avoir pour l'open mic aussi?
Oui. J'ai poussé l'audace.
Oh oui, hein? Pas de bobette, hein?
J'aurai pas le choix.
Pas de couche.
J'aurai pas le choix. J'aurais pas le choix d'avoir quelque chose, parce que là, tu vas tout voir. Ça va être un show d'humour.
Yannick.
Puis je veux pas que ce soit ça. Fait que...
Ben écoute, juste pour ça, t'es pas obligé d'acheter de chocolat. Si je te vois en Cupidon, je pense que je vais être satisfaite.
Ouais. Ah, ouais?
Okay. Je pense que oui.
Parce que, tu sais, ça me dérange pas d'aller chercher bien des affaires à la pharmacie, là. Tu sais, des affaires un peu curieuse là, pour un homme. Là,
une couche pour adulte, t'es pas rendu là.
C'est ça. Quand ma blonde me demande des affaires, je me dis, hey, je vais vraiment aller chercher ça. Là,
ben oui.
ça me gêne tout le temps. Mais, tu sais, un costume de Cupidon, ça prend une couche. Puis là, j'ai comme un blocage.
Je comprends. T'as-tu besoin d'aide?
Déjà que la fille à la caisse, elle m'appelle monsieur. Là, ça fait mal.
Oui, mais ta blonde est infirmière. Elle peut pas t'en ramener une. Juste une, mettons, lui, t'achètes un paquet, tu sauras même pas quoi faire
avec
ça.
Bonne question. Ce que je me disais aussi, c'est que, mettons que quelqu'un me prend en photo avec une couche, cette photo-là va probablement être utilisée contre moi.
Mais là, c'est ça. Il faut que tu envoies une des femmes de ta vie à l'hôpital. À l'hôpital, oui. À la pharmacie.
J'ai jamais été aussi fort que ça.
Oui, c'est ça. Je rectifie ma phrase. T'as jamais envoyé personne à l'hôpital.
Ça va être peut-être une grosse Saint-Valentin.
Envoie quelqu'un à la pharmacie pour toi. Ça sonne mieux une femme qui va acheter des couches. Il y a l'accouchement, il y a des raisons pour lesquelles on a besoin de couches, nous autres. Fait que t'aurais l'air peut-être un peu moins... Okay. J'ai hâte de voir ça.
Prochain sujet, c'est un gars que j'adore. J'ai eu la chance de lui jaser dans mon ancienne vie radio 3 ou 4 fois. Puis à chaque fois qu'il s'est présenté en studio, on a eu bien du fun parce qu'il nous racontait l'histoire de sa vie de détective privé. Mm-hmm. Je me rappelle plus comment il a fait pour s'en aller dans le merveilleux monde du détective privé. Mais c'est un gars qui est dans la région de Québec. Si vous promenez sur la Grande Allée, direction Gaspésie, donc direction Est, là, vers l'île d'Orléans, les chutes Montmorency, à votre droite, à un moment donné, vous allez voir une vitre sur laquelle c'est écrit « Détective privé ». J'étais très jeune, puis cette vitrine-là m'impressionnait en maudit, parce que moi, les détectives privés, je les voyais dans les films, les films d'Hollywood et tout ça, puis là, je savais pas qu'au Québec, on avait des détectives privés, puis Michel Corneau est là depuis des années. Là, ouais. Michel, je veux pas te vieillir, mais ça fait combien de temps que t'es détective privé?
Salut, Yannick, salut, Audrey. Depuis 1977.
Depuis 1977, faut dire que t'as commencé très jeune, hein?
J'ai commencé très jeune. Je vais prendre, dans 2 ans, ça va faire 50 ans.
Hey, wow! 50 ans!
Privé. C'est incroyable. Puis comment t'en es venu à devenir détective privé, Michel?
Un rêve d'enfant qui s'est réalisé, mais qui a passé d'abord par des études universitaires en droit. Puis en 84, je commençais. En 77, je commençais à travailler comme détective privé pour une agence. À cette époque-là, il fallait travailler 5 ans. Moi, mon but, j'ai une trame d'entrepreneur. Donc, mon but, moi, c'est de partir à travailler à mon compte.
Ouais.
Et à cette époque-là, c'est plus maintenant de même, là. À cette époque-là, il fallait travailler au moins 5 ans pour une agence avant de partir sa propre agence d'investigation.
OK. Quand tu dis que toi, c'était un rêve de petit cul, là, détective privé, t'as-tu connu ça comme moi, les détectives privés, à travers les films qu'on voyait à la télé?
Ben, ma mère qui m'avait donné un petit roman, Tom Sawyer, que je me souviens, qui était comme un enquêteur avec. C'était comme des adolescents, là. Puis, il était avec son ami d'enfance. Et puis, moi, j'ai joué au détective privé. Mon père avait un garage avec un très grand grenier. Puis, on se réunissait avec mes petits copains de l'époque, là, puis on jouait au détective privé. On jouait plus au détective privé qu'aux cow-boys et aux Indiens.
Ben c'est le fun que tu aies réussi à vivre de ta passion. Je veux dire, c'est le rêve.
Ah oui, puis je suis toujours aussi passionné.
Ouais.
La raison pourquoi que je continue à travailler, pour moi, c'est du bonheur. On est privilégié de faire le travail qu'on a toujours souhaité. Hein. C'est pas tout le monde qui peut réaliser ces rêves-là. Et puis moi, ben j'en profite à 100%. Puis j'en ai encore pour encore des belles années.
Tu te souviens-tu de tes premiers contrats? C'était-tu aussi palpitant que tu pouvais le penser quand tu as commencé?
À l'époque, il y avait plus de dossiers d'adultère qu'il y en a aujourd'hui.
Ouais.
Puis moi, quand j'ai commencé, c'était avant... Il y avait 2 choses qui ont changé au Québec, c'est qu'il y avait la loi de la paillette, que les détectives privés à cette époque-là, leur plus grand contrat, les contrats les plus nombreux, c'était pour les accidents d'automobile au niveau des assurances. Et puis à l'époque, il fallait aussi prouver l'adultère pour demander le divorce. Mais je pense que c'était en 84 que les 2 lois ont changé en même temps. Puis ça donnait que moi, je partais à mon compte à cette époque-là aussi. Fait que moi, j'ai développé un nouveau marché là, au niveau de la recherche de débiteurs, de biens saisissables. Du coup, quelque chose de plus administratif là, que sur le terrain, si on veut. Là.
Est-ce que c'est des longues heures? Mais quand tu es en filature, là, est-ce que c'est des longues heures? Tu dis à ta femme, regarde, j'ai un contrat, je sais pas trop quand est-ce que je vais revenir, là, mais je vais devoir passer ma vie pendant quelques jours dans ma voiture. Quand tu as commencé, c'était ta business, fait que tu étais le seul employé de ta business, là, ça devait être long parfois.
Moi, je viens d'une famille de chasseurs, hein, OK?
OK.
Puis, moi, je restais avec mon père dans l'échafaud pendant toute une journée à attendre d'avoir l'orignal sortir du bois.
T'as la patience.
Ça fait que, oui, j'ai développé la patience. Et puis, faut dire que dans une voiture, on est plus confortable que dans un échafaud. Hein, vous savez? Mais tout ça pour dire que, oui, c'est des heures. Ça peut, en moyenne, c'est 10 à 12 heures par jour. Hein. On arrive très tôt le matin. Avant, surtout si on travaille sur des employés de la construction, qui partent aussi très tôt. Et puis, on termine souvent au petit, vers les 7-8 heures le soir, pour, si on veut courir toute la journée.
Est-ce que...
si on peut faire ça pendant 4-5 jours d'affilée.
Ouais. Est-ce que tu as déjà craint pour ta vie? Tu dis que tu es détective privé depuis 1977. Y a-tu déjà un moment donné où tu t'es dit, tabarouette, je l'ai échappé belle?
Bon, il m'est arrivé quelques petits incidents, là, mais c'est comme dans n'importe quel métier. Il faut bien avoir un bon jugement, puis pour faire exprès, pour se mettre dans le trouble, comme on dit. Mais il y a des choses, des fois, il y a certains événements qui étaient inévitables et que j'ai eu une bonne réaction et puis je m'en ai sorti là, sans trop d'écueil. Là.
Ouais. Donne-moi des exemples, sans me nommer de nom, bien entendu. Donne-moi des exemples de trucs qui te sont arrivés puis tu t'es dit, tabarouette, je pensais jamais rencontrer ça, ce genre d'événement-là dans ma vie.
Ben, c'est pas aussi extraordinaire qu'on peut voir au cinéma, si on veut, là. Mais je me souviens d'une fois, entre autres, que j'ai été bloqué par 4 voyous. J'étais dans un chemin de campagne, puis les 4 voyous m'ont bloqué la route, puis sont venus vers moi. Et puis il a fallu que je passe à côté dans le fossé. J'avais un 4x4 à l'époque. Puis j'avais un voyou sur le capot de ma voiture, puis il y en avait un autre qui essayait de rentrer par la porte arrière. Donc, j'étais content de m'en sortir assez rapidement. Je sais pas qu'est-ce que... J'aurais probablement passé un mauvais quart d'heure, comme on dit.
Quand t'es en filature, là, sur plusieurs jours, je sais pas, moi, advenant le cas où c'est un contrat avec une compagnie d'assurance qui ont l'impression que le bénéficiaire ment ou fait des tentatives de fraude, puis toi, tu dois le prendre en photo puis essayer de montrer un dossier. Ça te prend combien de temps avant d'établir la routine de l'individu? Parce que, tu sais, Michel, des fois, je pense à ma vie, là, puis je me dis, tabarouette, à tous les jours, je fais la même chose aux mêmes heures. Je vais tout le temps visiter les mêmes endroits. Si jamais Audrey, là, qui est ma co-animatrice, qui est en face de moi, mettait un contrat sur ma tête, le tueur à gage, ça prendrait comme 2 jours, puis il est sûr et certain exactement de où est-ce que je vais être à la seconde près. La plupart des gens sont comme ça, Michel?
La plupart des gens, puis on l'est tous aussi. Puis pour répondre à ta question, c'est 5 jours. Entre 3 et 5 jours, on peut arriver à prouver, par exemple, qu'un employé qui est en arrêt de travail, qu'on a invalidité, et qui a l'habitude de faire des activités comme, par exemple, aller s'entraîner. Hein? On a pogné quelques-uns dans des salles d'entraînement ou aller donner un coup de main à son beau-frère pour faire un patio sur la toiture. Puis quand l'employeur nous engage, il faut qu'il y ait un doute raisonnable aussi. Hein? Il ne peut pas nous dire « je vais à la pêche et puis je vais voir si mon employé me dit la vérité ». Il faut qu'il y ait le doute raisonnable. C'est soit que c'est un résultat d'un examen médical qui est contradictoire à ce que le médecin traitant mentionne de son patient, ou ça peut être une dénonciation anonyme aussi. Mais on va pas à la pêche dans des dossiers de filature d'accident de travail, par exemple. Là. Ça serait pas... De toute manière, on serait au talp, on serait pas... Le juge nous demanderait, la première question qu'il poserait, c'est est-ce que vous aviez un doute raisonnable pour mettre monsieur en filature? Et puis là, j'ai eu un gros dossier que... L'employeur avait pas pris cette mesure-là. Nous, on l'avait canné d'aplomb, comme on dit, dans 5 jours. L'employé qui disait qu'il avait mal au dos puis qu'il pouvait rien faire, puis qu'on l'a vu passer le souffleur, faire des réparations, en tout cas, pendant toute la semaine, là. Puis finalement, la cause a été rejetée par le juge pour ce motif-là, à cause qu'il n'y avait pas de motif raisonnable.
Qu'est-ce que vous n'avez pas le droit de faire, question de respecter la vie privée? Elle est où la limite quand on parle d'infiltration?
Bien, il faut dire que dans les dossiers, la majorité des dossiers au privé sont des dossiers, ce qu'on appelait à l'époque les dossiers de CSST, là, ou CNESST maintenant, c'est que l'employeur nous engage pour démontrer que son employé fait des fausses déclarations. Bon, il faut prendre l'employé en filature. Habituellement, ça se fait en équipe de 2 enquêteurs pendant 3 à 5 jours. Puis nous, notre limite est assez facile à évaluer, c'est qu'on n'a pas le droit... tout ce qu'on doit filmer, on doit le voir de la rue. Hein?
À partir du trottoir.
Ou dans les lieux publics où on a le droit de fumer dans les centres d'achat des magasins, dans les quincailleries, par contre, de la rue. Mais par contre, si notre travailleur est dans sa cour arrière puis est en train de faire des travaux, n'importe quels travaux qui normalement il pourrait pas faire, et puis qu'on peut pas le voir sans passer à travers la headset, ben là, on peut pas filmer. On n'a pas le droit, ça serait pas accepté de toute façon.
Si on parle d'infidélité, parce que j'imagine qu'il y a une époque où c'était plus courant peut-être de faire appel à un détective privé qu'aujourd'hui. J'imagine que vous avez moins de cas avec l'avènement des réseaux sociaux dans les dernières années. Là.
Est-ce que ouais, c'est, est-ce... Je veux préciser une chose, c'est que ça a diminué depuis le début de ma carrière, mais ça n'a jamais représenté plus que 5 à 10 % du chiffre d'affaires du bureau.
Ah oui? Ça me surprend.
Oui. Puis, aujourd'hui aussi, avec les dispositifs GPS et Apple Tag et compagnie, bien souvent, les gens ils réussissent à pincer leur mec ou leur blonde plus facilement, puis ils n'ont pas vraiment besoin d'enquêteurs comme nous. Là. Sauf qu'il y en a encore. Puis,
Est-ce que c'est plus des femmes que des hommes? Généralement, on dirait qu'on a cette impression-là.
C'est donc bien des questions, Audrey, que tu poses à Michel sur l'infidélité, le coudon. Qu'est-ce que
je suis curieuse, curieuse.
Moi, je dirais que c'est pas mal 50-50.
50-50?
J'ai autant de femmes qui me demandent de suivre le conjoint que l'inverse. Ah oh oui, ça se voit des deux côtés maintenant.
Puis comment vous vous y prenez quand on parle d'infidélité? C'est la même chose que n'importe quoi? Vous suivez les faits et gestes jusqu'à ce qu'on prenne la personne la main dans le sac?
C'est ça, ben c'est de la filature, hein, que soit le motif, c'est la technique est toujours la même. Souvent, ce qu'on demande à notre client, c'est de nous cibler des heures et des journées, parce qu'on ne passera pas une semaine à suivre un conjoint. Là, c'est dans ce milieu-là, ça se règle plus rapidement. Avec, comme par exemple, la cliente peut dire, ben moi, mon chum, il va s'entraîner à tous les trois jours. Puis j'ai vérifié dans son sac de sport, puis son linge est toujours bien propre. Fait que le timing est bon sur un événement comme celui-là, comme un autre. Ça fait qu'elle nous demande, bon, je veux que vous suivez mon conjoint s'il va vraiment s'entraîner, puis qu'est-ce qu'il fait par la suite. Puis bon, c'est je vous dirais que 9 fois sur 10, la cliente, on prouve qu'il y a adultère. Puis quand on prouve pas qu'il y a adultère, ce qui est comique des fois, c'est que la cliente est déçue.
Ah, ouais, hein? Ouais. Mais, les femmes, on a un feeling, Michel, par rapport à ça.
Est-ce que tu as déjà fait de l'infiltration dans des entreprises pour prouver qu'un tel ou un tel vol du matériel?
Ouais, non. Ben, pas moi personnellement, parce que je suis... mais on a fait à plusieurs reprises de mes enquêteurs qu'on les envoie dans une entreprise. En moyenne, ça dure à peu près 2 à 3 mois là, pour faire un bon travail. Là.
Donc, la personne est embauchée dans l'entreprise avec par l'entremise des patrons, bien entendu, puis elle doit ouais. créer contact avec l'individu qu'on soupçonne de voler du stock de l'entreprise ou d'être un peu irresponsable avec les appareils.
Exactement. L'enquêteur est formé pour s'infiltrer dans l'entreprise, puis d'ouvrir l'œil, puis les oreilles aussi. Ça peut être pour des vols de ce qu'on appelle vol par serviteur.
Ouais.
D'entreprise. Ça peut être aussi de la consommation de stupéfiants. Ça, on a fait beaucoup de consommation de stupéfiants. De vente de drogue dans l'entreprise aussi. C'est tous des motifs où on intervient. Là.
Michel, tantôt, tu as vendu ton âge. Là. Tu dis que tu es détective privé depuis 1977, mais que tu vis encore de ta passion, même à l'âge actuel, puisque tu ne veux pas arrêter ce métier-là qui est ton rêve d'enfance. C'est quoi les appareils que vous aviez en 1977? C'est quoi les appareils que vous avez aujourd'hui en 2025 pour exercer votre métier de détective privé? Tu dois halluciner des fois quand tu penses à ça.
J'ai vu toute l'évaluation, Moi, quand j'ai commencé à travailler, des secrétaires, on les appelait les typistes, qui étaient à la machine d'écrire manuelle.
OK.
Avec des carbones, puis du liquid paper pour corriger les fautes.
Oui.
Et nous, les enquêteurs, on dictait au dictaphone les rapports, puis il y avait une salle des typistes, eux autres qui tapaient tous les rapports. Ensuite de ça, il est venu la machine électrique.
Oui.
Où ça avait une petite fenêtre, là, ce qu'on voyait ça c'était révolutionnaire parce que tu pouvais corriger tes fautes au fur et à mesure. Et puis le fax. Moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas de fax. c'était encore plus révolutionnaire, là, qu'envoyer des documents par fax, c'était extraordinaire. Et puis, bon, mais les vallées, l'avenue de l'Internet, et puis là, depuis ce temps-là, ça n'a pas arrêté d'évoluer. Là.
Est-ce que les appareils photo, je veux dire, au début, quand tu as commencé, tu devais avoir un appareil photo en 77? Ça aussi, ça a évolué?
Ouais,
aujourd'hui, tu as besoin d'un cellulaire?
Oui, c'était des grosses caméras, puis il fallait... Aujourd'hui, on peut être à une distance assez éloignée pour prendre des images numériques très fiables, très claires. Mais à l'époque, il fallait toujours être plus près des sujets qu'on filmait parce que les zooms n'étaient pas si puissants. Hein.
Quand tu... c'est des questions d'auditeurs, Michel, qui arrivent. Là, by the way, on est avec le détective privé Michel Corneau, qui est sur la Grande Allée depuis des décennies et des décennies. Il exerce son métier de détective privé. Si vous avez des questions pour lui, 418-971-1021, 418-971-1021. Est-ce que, quand tu te fais griller là, durant une filature, est-ce que tu dois donner le contrat à quelqu'un d'autre ou tu changes tout simplement de voiture ou tu mets une fausse moustache ou tu te coupes les cheveux? Comment ça fonctionne?
Non, les jeux. Non. Bon.
On écoute beaucoup de films, hein, Michel.
Bon, je vais changer ton mode de cuisson. Nous, on ne dit pas griller, mais on dit brûler.
Oui.
Fait qu'on, lorsqu'on se brûle, ça... moi, je te dirais, dans ma carrière, je me suis brûlé peut-être une dizaine de fois. C'est pas beaucoup, là, pour 45 ans de filature, là. Mais quand ça arrive... On se brûle pas vraiment à 100%. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, on se rend compte que le sujet fait une conduite qui est pas logique, des déplacements qui sont pas, comme on dit, qui fait une boîte là, pour voir s'il est en filature ou quoi.
Ouais.
Et à ce moment-là, ben on cancelle tout simplement pour prendre plus tard avec d'autres véhicules. Là. C'est comme ça que c'est la technique qu'on leur fait.
Mais est-ce que vous vous faites confronter dans ce temps-là? T'sais, moi, s'il y a quelqu'un qui n'arrête pas de me poser de l'autre bord de la rue, ça se peut que je fasse comme elle. Y a-t-il quelque chose que je n'ai pas compris?
On quitte avant qu'il y ait une confrontation. Là.
Comment?
On quitte avant qu'il y ait une confrontation. Si okay. On sent que ça commence à être trop chaud, puis on n'est pas en une bonne position, on n'est pas un bon roupie, on va quitter et on va reprendre plus tard.
Ouais. Ben, il y a eu une histoire dans l'actualité qui touchait des gens qui étaient très connus. Là. C'était un riche millionnaire avec une animatrice de télé qui s'était séparée. Puis la dame prenait l'avion et il y a un individu qui la suivait. Et elle s'est aperçue qu'il y a un individu qui la suivait. Puis elle l'a tout de suite confronté tout en le filmant. Puis après ça, elle s'était plaint dans les médias qu'elle s'était fait suivre par un détective privé. Puis effectivement, le détective privé n'a absolument rien dit. Il a juste quitté l'endroit, tout simplement.
Mais on a-tu des recours, je vais dire ça comme ça, Michel, mais on a-tu des recours comme citoyen si on se rend compte qu'il y a un détective privé qui est après nous? C'est quoi? On appelle la police? C'est légal, j'imagine, anyway, là?
Tout le monde a des recours, mais des recours au civil si par exemple quelqu'un s'est senti suivi puis ça a causé des dommages, bien, c'est sûr que la personne puis qu'il connaît l'agence qui a fait la filature, tout citoyen peut entamer des poursuites civiles. Là. Mais ça ne veut pas dire qu'en bout de course, que le client va avoir raison. Si l'agence avait un mandataire avec un motif raisonnable de faire de la filature. Là.
J'ai une question par rapport au côté monétaire. Est-ce que les prix, quand on engage un détective privé, dépendent de la mission ou c'est à peu près toujours le même prix? C'est-tu très élevé?
Non. Ben, il y a des prix là, au niveau de la filature et au niveau de l'enquête. Là, ça va dans 75 et 100 $ de l'heure environ. Là.
Okay.
OK. Quand même, c'est très bon. Est-ce que vous avez à peu près les mêmes droits que la police quand vous faites une filature ou quand vous faites de la surveillance? Puis je vais t'expliquer ma question. Vous n'avez pas les mêmes droits, c'est ça. Il y a un individu à Québec qui est ciblé actuellement, puis on ne sait pas trop si c'est les policiers qui le ciblent ou si c'est, mettons, les membres de gangs de rue. Je vais rester assez vague, là. Mais je parlais avec son voisin, c'est... quand est-ce qu'on était à l'atelier? C'était avant hier, hein?
Oui, mardi.
Mardi, je parlais avec le voisin de cet individu-là, puis il disait, ben moi, au-dessus de ma maison, il y a constamment des drones qui passent, là. Est-ce que les détectives privés peuvent maintenant utiliser des drones? Parce que tu nous as dit tout à l'heure, nous, on peut filmer, mais du trottoir. trottoir. On peut filmer dans les endroits du trottoir à la maison. On peut filmer dans des endroits publics. Est-ce qu'avec l'arrivée des drones, il y a comme une nouvelle législation pour vous autres? Comment ça fonctionne?
Bien, la loi s'applique de la même façon que tu filmes par un drone. Une situation que tu peux pas voir de la rue, ben c'est sûr que ce que tu vas avoir filmé sera pas accepté là. Par contre, un drone, ça peut permettre d'identifier le lieu de la surveillance, de vérifier si le sujet est bien chez lui. Ça peut nous apporter des informations, mais je pense, d'après moi, c'est pas une pratique courante dans le domaine de l'utilisation de ces drones là, parce que au niveau technique, c'est pas si efficace que ça là, pour nous. Là. En tout cas, moi, j'ai aucun collègue qui me dit qu'il travaille avec des drones. Là. Il y en a l'idée actuellement.
Il y a des textos qui entrent. Il y a quelqu'un qui nous demande « Quel a été ton cas, ta filature la plus étrange? »
Sa propre femme.
Non, ça me vient pas l'idée la plus étrange. Là. Non. On cherche le sensationnalisme, mais là, j'en ai pas à vous chercher.
Non. En 77, là, quand tu disais aux gens autour de toi, je sais pas, quand tu allais prendre un verre d'un bar, puis les gens te disaient « qu'est-ce que tu fais dans la vie, Michel? » Est-ce que tu le disais? Est-ce que tu te gardais une gêne? Ou est-ce que tu restais discret?
On en parle très, très rarement de ce que l'on fait. Juste pour une raison, c'est pas pour se protéger derrière une autre profession, c'est pour éviter le nombre de questions qu'on va avoir suite à ça, parce que ça intrigue la majorité des gens. Hein. Alors, moi, personnellement, ce que je dis, moi, je dis que c'est vrai aussi, je suis propriétaire immobilier, puis ça clôt assez rapidement la discussion, parce qu'en disant que tu es détective privé, ben là, c'est sûr que tu en as pour une heure.
Ouais. Ça t'a-tu déjà nuit, ça, dans ta vie personnelle, d'avoir une vie professionnelle comme ça?
Non, pas du tout.
Non.
Au contraire. Ouais. Ça met du piquant.
Ouais, ça met du piquant. C'est parce que je me disais, tu sais, mettons que en 77, tu étais célibataire, tu arrivais dans un bar, une belle brune aux yeux clairs, là, qui te dit « Qu'est-ce que tu fais, Michel, comme job? » Détective privé, ça se disait bien, là. Tu dis « Michel Corneau. » Détective privé.
J'étais étudiant en droit à cette époque-là, fait que ça pognait aussi bien.
Voilà.
Il y a une autre question. Les gens sont curieux, évidemment, tu comprendras, Michel. Là, il y a une autre question qui entre. Est-ce que c'est déjà arrivé que l'homme et la femme font appel à vos services pour enquêter l'un sur l'autre?
Oui.
Puis à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais?
En plus, la hymne, monsieur. Une chance que j'avais une porte de sortie en arrière. J'avais le client dans mon bureau, puis j'avais sa femme qui attendait à la réception pour me rencontrer.
Oh, boy! Visiblement, il se faisait pas confiance pantoute, hein? C'est...
Non, ça allait pas bien.
Hey, Michel Corneau, ton bureau, es-tu toujours sur la Grande Allée?
Oui, toujours, au même endroit.
Ouais, c'est toi qui as la plus belle vitrine sur Grande Allée, soit dit en passant. Depuis que je suis petit cul que je regarde cette vitrine-là, puis ça m'a toujours fait rêver. Mais quand je t'ai vu en personne, ça me faisait moins rêver, là, mais parce que tu n'avais pas ton chapeau, puis ta moustache, puis ton paletot. Là. Mais, mais
à ce niveau-là, j'avais brisé ton rêve.
Ben oui, c'est ça, le costume.
C'est ça.
Exact. Michel Corneau, un gros merci. Puis pour les gens qui veulent avoir accès à tes services de détective privé, ben, ils peuvent communiquer avec toi. Simplement aller sur Google, c'est très facile. Vous tapez Michel Corneau, détective privé, vous allez avoir toutes les informations.
Hey, merci beaucoup à vous deux.
Merci Michel.
Bonne journée.
Bye-bye. Quand on parle d'un passionné, là, puis de gens qui gagnent leur vie avec leur passion, c'est ça.
Faut des guts quand ils pensent de dire « Je vais faire mon droit, mais moi, je rêve d'être détective privé, fait que je lance ma business. » Tu sais, au début, là...
Il était ticu.
C'est capoté, là.
Il était ticu, il voulait faire ça. Il jouait pas à police-voleur, il jouait au détective privé.
Tu n'as pas d'expérience, puis faut que les gens aient confiance en toi au début quand tu y penses, là.
Oui, puis c'était très rudimentaire au début, là, les appareils qu'il pouvait avoir, contrairement aujourd'hui où, on n'est pas embarqué dans ce dossier-là avec Michel, mais tu sais, les micros, les caméras qui se sont améliorées, les objectifs, tu peux capter les choses de très, très loin.
Les réseaux sociaux doivent aider énormément aussi, là.
Ouais.
C'est dans le sens que...
Ben toi, c'est ce que tu fais, là.
Ben, honnêtement, moi, tu me laisses 24 heures pour trouver du monde ou des...
Petit
ça sera pas long, là.
Petit chum Instagram. Petit chum, j'ai des questions à te poser. C'est qui, elle?
Je suis pas de même, par exemple.
Sur tes 48 photos, elle ne l'a liké 3!
Ah non, mais j'avoue que peut-être que c'est par la job qu'on fait aussi. J'ai quand même une partie de job qui est recherchiste, mais c'est quelque chose que je mange. Quand il y a le défi, moi, de trouver quelqu'un que je sens qui est introuvable, je trouve ça le fun parce qu'aujourd'hui, c'est tellement facile de trouver quelqu'un via les différentes plateformes, que ce soit LinkedIn, Facebook. Tu tapes un nom, tu trouves assez rapidement, là. Mais il y a un challenge à essayer de trouver quelqu'un qui est peut-être un peu plus mystérieux. Fait que je comprends à quel point il peut encore triper sur sa job aujourd'hui.
Ouais, moi, j'ai une collègue que j'avais dans le temps qui travaille maintenant avec nous dans la grande famille de Leclerc Communication. Là. À un moment donné, j'y ai donné une tâche impossible. Okay? J'y ai parlé de quelqu'une, puis en moins de 2-3 heures, elle a réussi à trouver la personne. Mais tu sais quoi? J'avais pas de nom, j'avais juste une description. Cheveux blonds, yeux bruns, mettons 5 et 10. Là. Puis en moins de... En moins de temps que pour préparer une lasagne, là, elle a trouvé l'individu.
Mais des fois, ça te prend juste une affaire du genre « je sais qu'elle connaît telle personne ».
Ben, elle, c'était ça.
Fait que là, à partir de ce moment-là, OK, ben là, je veux dire, c'est facile de fouiller, chercher des photos. Puis là, souvent, tu vas essayer de chercher des tags ou les gens qui ont aimé un post. Ou, hey, je te dis, là, ça, honnêtement, là... Puis ça doit faciliter leur travail aux détectives privés aujourd'hui d'avoir accès à cette banque-là parce que personne fait attention à ce qu'il met sur les réseaux sociaux puis personne se protège tant que ça des internets non plus, on va se le dire. Là.
Ouais.
J'en doute pas en tout.
Mais tu pars pas une relation de couple dans l'espoir de la tromper. Là.
Non.
C'est ça,
c'est triste en motadine. Là. Regardez vos affaires. Là.
Mais le couple qui... Enquêtant sur l'autre. Michel Corneau, détective privé. Est-ce que tu peux suivre ma femme? Puis l'autre bord, c'était « Bonjour, Michel Corneau, détective privé, oui, c'est vrai. Est-ce que tu peux suivre mon mari? »
Moi, je leur dirais « Je perdrai pas mon temps avec ça, là. Séparez-vous, vous vous faites pas confiance.
» Alors, puis Michel, il est bien simple, là. C'est un gars super sweet. Moi, je l'avais rencontré en personne, là, sur Grande Allée. J'adore l'individu.
Non, ben écoute, en plus, il a l'air relax, là. Tu vois que ça fit dans le personnage.
Oh, oui, puis tu sais, quand il dit « situation dangereuse », d'après moi, toi, t'aurais jugé comme 848 situations dangereuses. Lui, ça a été... Ouais, c'est parce que j'ai failli salir mon char dans un champ. J'essayais d'éviter 4 bandits.
Mon hood, là.
11h11, on fait une courte pause. Si vous avez des questions pour nous, il se passe quoi que ce soit sur la route, les amis. Vous êtes nos yeux, nos oreilles. Merci. 88-971-101, c'est par texto. On vient.
Samedi et dimanche, boule.
Je fais chaud, t'es en train de travailler sur un show de la Saint-Valentin demain. Moi, j'ai le goût de scraper tout ça.
Qu'est-ce que tu veux faire?
C'est moi le cupidon de l'amour, mais je pourrais être le cupidon satanique de l'amour.
Mais tu peux aussi, hein. Je veux dire, il y en a pour qui la Saint-Valentin, ça veut rien dire et où sont seuls puis ils n'ont rien à battre. Je veux dire, on n'est pas obligé d'aller là.
Ouais. On pourrait, on pourrait donner la chance à des auditeurs de domper leur blonde à Saint-Valentin sur des ondes de radio.
Y aurait-tu des intéressés? 88-971-102. Oh non, c'est tellement triste.
Comment ça?
On pourrait-tu faire l'inverse? Oh non, c'est parce que toi, tu veux. C'est parce que j'aurais dit des demandes en mariage. Ouais. Tu sais, on pourrait organiser. Tu dis que t'es Cupidon envers Pascal sur l'heure du midi, mais on pourrait-tu.
Je pourrais être le Cupidon satanique. Pensons à ça, Cupidon satanique.
Si vous avez des suggestions, des déclarations que vous voulez faire sur les ondes, des situations que vous voulez partager, on est très ouvert, là. Parce que demain, il faut dire que dans toute la grande vague de maladies qui touche la capitale nationale, on n'a pas notre collaboratrice, Mademoiselle V, demain.
Elle sera pas là?
Non, mais elle a un streptocoque qui l'a amenée à l'hôpital. Là, fait que
elle sera pas.
Oui, elle est correcte et tout. Mais tu sais, des fois, tu réagis à des antibiotiques. Là, mm-hmm. Fait que c'est simplement qu'elle est allée faire quelques vérifications, mais elle est encore contagieuse.
As-tu envoyé la fameuse photo, le fameux truc, là, tu mets tes écouteurs. De iPhone là, avec le fil, là, tu mets ça dans ton nez.
Oh,
après ça,
Dieu.
Tu mets le fil au-dessus de tes oreilles.
Je suis hospitalisé. Non, elle avait tellement de peine parce qu'elle avait préparé quelque chose de gros pour demain. Elle était en motadine de ne pas pouvoir être là. Mais regarde, Max n'était pas là ce matin parce qu'il est malade aussi. C'est la vie.
Sais-tu ce que j'ai appris de Max?
Qu'est-ce que tu as appris?
Bon, c'est peut-être une rumeur. Mais sais-tu ce que j'ai appris de Max?
Qu'est-ce que tu as appris?
C'est que depuis. On est quelle date? Là? On est le 13. Depuis 13 jours, Max n'est plus sur Tinder.
Mais...
Et il devrait se remettre sur Tinder le 15 février. Parce qu'il ne voulait pas acheter de cadeaux à Saint-Valentin.
C'est ça l'affaire.
C'est-tu cheap,
hein?
Ça?
Ben, c'est Max, tu sais.
Oui. Pensons à toutes les autres cheap qui vont dire « Ah, nous, la Saint-Valentin, c'est à l'année, fait qu'on fait pas quelque chose de spécial pour le 14. »
Ouais. Max, par exemple...
Petit chum, es-tu cheap?
sais-tu ce que Tchum a fait?
Qui va payer demain?
C'est assurément lui. Il a déjà réservé au restaurant.
C'est lui qui va payer?
Okay. Hier, il m'a envoyé des roses. En après-midi, j'ai reçu un bouquet de roses pendant le show.
Ouais, parce qu'il savait que tu couchais pas à la maison, fait qu'il voulait te...
Oh, il savait pas à ce moment-là. Hein?
Lui, il a dormi où?
Il savait... Hey! Parle pas des affaires de même. Rappelle Michel Corneau.
Hein? Un gars qui est trop gentil avant la Saint-Valentin, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire?
Hey, sais-tu quoi? C'est le fun.
Sans mon chum m'embrasse plus pareil. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Hein?
J'essaie... Je vais te confier quelque chose d'un peu débile, là.
Ah, rapidement. Faut que je monte le son de mes écouteurs. Oui.
J'ai un peu déjà été cette personne-là il y a à peu près une dizaine d'années.
T'es-tu déjà fait tromper?
À 3 reprises.
Ben voilà.
Par différents copains.
Ouais.
Fait que j'étais cette personne-là très, très, très insécure qui prenait tout comme un signe dans une nouvelle relation, qui évaluait... Toutes ces affaires-là, là. Ah, j'ai l'impression que cette semaine, tu m'as pas beaucoup dit que tu m'aimais. Tu me dis plus que je suis belle. C'est-tu parce que tes sentiments descendent? Honnêtement, j'ai été cette personne-là sur la limite du toxique parce que ma confiance était à un niveau tellement, tellement bas. Puis dans le début de ma relation avec mon chum d'aujourd'hui, j'ai fait la pratique inverse. Je l'ai averti. Je suis très insécure.
Ouais, mais
il
faut dire que
relation.
Tu nous as dit que Tichum, c'était pas le genre de gars qui t'aurait fait te retourner la tête d'un bar. Fait que tu sais, tu t'es comme réservé le fait que ben, si toi tu le fais pas, les autres filles le feront pas. Fait qu'il est comme pogné avec toi. T'sais.
Peut-être. Non, quand même pas, là. Hey, trop assez beau, mon petit chum. Mais je suis chanceuse parce que j'ai un mot tadine de bon gars entre les mains, mais tu sais, tu restes avec cette insécurité-là. Puis aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une très, très grande confiance en mon couple, puis une meilleure confiance en moi, ce qui a enlevé cette espèce de couche okay. De marde-là.
Mais pourquoi il t'a envoyé les roses hier?
Parce que hier, ça faisait 6 ans qu'on était ensemble.
Pile? OK. OK, oh, ça
oui,
s'explique.
Non, oui, il y avait ça, là. Oui. Fait que non, il est très économe, mais il sait quand redonner. Tiens, je vais le dire comme ça. T'es-tu ce genre de gars-là, toi?
De?
Ben, qui va éviter de vouloir donner des cadeaux de Noël ou de Saint-Valentin, puis qui va régler ses affaires avant.
Je suis très commercial. Moi, le Saint-Valentin, j'ai toujours fêté ça quand j'étais en amour. Noël, je suis tout le temps à dernière minute. Je sais que ça te surprend que je sois toujours à dernière minute au jour le jour.
Très surprise.
Mais le 24, je vais t'avouer qu'on n'est pas les seuls. Le 24 décembre, là, on
c'est
est
une gang.
Je te dirais vers 5h moins quart, on est tous en file à la caisse.
Une crowd majoritairement masculine.
Puis on respire fort.
Oui, un peu stressé, c'est plus ça. Swing. Là,
puis là, on cherche le kiosque, là, tu sais, des madames là, qui emballent les cadeaux. Là.
Oui.
Ou on est à la boutique à une pièce, là, puis on achète des
sacs avec du papier.
Des sacs à 2 piastres.
Du fla-fla, là, ouais.
Exact. Puis là, on embarque dans nos chars, puis là, on arrive pour passer pour des kings à la maison. Ouais. Hey, j'avais ça dans le garage.
J'avais oublié.
Non, ça fait 2 mois, je magasine.
Mm-hmm. Ouais. Ouais, vous êtes toutes pareilles, okay. On sait.
Fait que là, Cupidon satanique demain, peut-être.
Oui, bien là, écoute, s'il y a des gens qui ont envie de
on trouvera de quoi.
On va jaser demain. Là. C'est la fête de l'amour ou de la dépression, ça dépend.
Hey, c'est la journée internationale de la radio.
Yes!
C'est la fête de la radio aujourd'hui.
Je suis content de faire de la radio avec toi.
À tous les auditeurs et les animateurs et les animatrices. Moi aussi, je suis content. J'avais pas le choix, mais je suis content. Les colocs!
Dans ma petite ville, on était jusqu'à... Le centre d'achat! Le centre d'achat!
Je connais presque toutes la chanson par cœur. 11h27, juste avant de vous quitter, les amis, on a des cadeaux. Donc, si vous avez resté jusqu'à la fin, vous êtes les grands chanceux. Steel Panther et Buck Cherry qui présentent la tournée Northern Exposure mercredi le 14 mai au Théâtre du Capitole. Ne manquez pas Steel Panther et Buck Cherry en spectacle ensemble la même soirée. Donc, restez à l'écoute de Boulevard 102.1 pour gagner votre paire de billets. J'ai une paire de billets actuellement, mais juste avant, si vous ne réussissez pas à l'avoir, cette paire de billets-là, qui est gratis, je vous la donne, théâtrecapitole.com, théâtrecapitole.com. Les billets sont en vente dès demain, 10h.
Ce serait qui votre partner de show, tout simplement?
Votre partner de
votre
show?
Votre partner de show. 88-971-1021, qui vous voulez amener voir Steel Panther et Buck Cherry? Évidemment, vous vous nommez, vous mettez votre numéro de téléphone et vous pouvez gagner cette paire de billets-là.
À demain pour nous.
Hey, à demain, là.
À tantôt pour toi et les autres.
Oui, salut.
Salut, 14h.